Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients au bout.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spézelles.
Oh, bon, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
I am cooking some good!
À chaque fois que j'ouvre un livre de recettes anglo-saxon, il y a un terme qui me donne immédiatement l'impression que le plat décrit va être merveilleux. Roasted. Au restaurant, c'est pareil. Ajouter à n'importe quel ingrédient l'adjectif qualificatif braisé ou grillé et ma salivation s'enclenchera dans la seconde. La peau d'un poivron rouge qui se plisse en délicieuses rides noircies au barbecue, les bords retroussés d'un œuf au plat dont le blanc se gondole légèrement au contact d'une huile frémissante, les quartiers de patates frites les plus dorés du saladier, la pièce de viande qui a imprimé sur son corps charnu les rainures de la poêle, les pommes dont la surface bombée a le plus été brunie par le sucre dans une tarte à thym. Pourquoi les aliments nous semblent-ils si attirants lorsqu'ils sont dorés, caramélisés, braisés, grillés? Quelle est cette magie qui opère et agite la palette des goûts? Pour comprendre en quoi le brunissement en cuisine peut être si appétissant, il faut faire un détour par la chimie et expliquer ce moment dans la cuisson des aliments où les sucres entrent en contact avec les acides aminés pour créer de nouvelles molécules responsables de nouvelles saveurs. En deuxième partie d'émission, j'ai tendu le micro à Arthur Lequen, auteur de livres culinaires mêlant vulgarisation scientifique et explication gourmande.
On va avoir des molécules qui sont volatiles, qui vont remonter dans le nez et qui participent au goût. Donc on a beaucoup plus de goût une fois que c'est cuit comme ça.
Mais avant ça, j'ai discuté avec Ingrid et Guillaume du restaurant Source à Nantes. Les deux diplômés de Ferrandi ont à cœur de ne travailler que des produits de saison. Selon les arrivages, Ingrid et Guillaume improvisent des façons de sublimer les ingrédients, par exemple en proposant un légume cuit de différentes manières dans une même assiette. Chez Source, on peut manger de l'agneau grillé servi avec un yaourt mentholé, des endives à la fois fondantes et braisées, du pak choy poêlé au beurre, un steak de tomates caramélisées rappelant les fonds de casserole de ratatouille ou encore des pommes dorées dans du sucre. J'ai demandé à Ingrid et Guillaume de me parler de ce pourquoi ils grillent, braisent, dorent et caramélisent des trucs en cuisine.
Ça apporte un goût supplémentaire. Au final, ça peut devenir même comme un assaisonnement. Ça va donner une texture différente.
Tu as un développement des goûts, tu as une texture différente, tu as des saveurs qui n'existaient pas et tu as surtout une longueur en bouche et des notes de torréfaction, un sucre qui ressort davantage. Et ça te permet aussi, rien que déjà sur un visuel, t'es beaucoup plus attiré par, un poulet rôti parfaitement doré, où tu sais que tu vas avoir une peau toute croustillante, toute fondante, etc. Alors que si t'as un élément bouilli, mal cuit, etc., tout de suite, t'es moins attiré par ça. Après, je pense que c'est aussi ancré au plus profond de nous, dans le sens où sur l'alimentation, quand les gens ont commencé à utiliser le feu pour cuire des aliments, ils ont tout de suite compris pour leur santé entre guillemets qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais rien que sur le goût, je pense que c'est presque dans notre ADN d'être attiré par ce genre de cuisson, quoi.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que en préparant cet épisode, je m'interrogeais là-dessus. Je me disais, mais est-ce que vraiment, quand on braise quelque chose ou quand on cuit quelque chose, quand on le fait dorer, est-ce qu'on peut dire que pour tous les ingrédients, c'est systématiquement meilleur, ou est-ce que c'est pas un truc aussi qu'on a en tête de c'est le barbecue, c'est grillé, c'est festif, ça va être bon, enfin un truc comme tu dis qui remonte à il y a tellement tellement longtemps. Est-ce que du coup vous pensez que il y a des ingrédients peut-être qui sont meilleurs, pas forcément grillés? Est-ce qu'on a des contre-exemples?
Pour moi, surtout sur les légumes, là en plus on est en pleine période sur le printemps avec tous ces légumes primeurs, etc. Alors c'est sûr que quand on amène quelque chose un tout petit peu grillé sur une asperge, ça peut être bon. Mais après, je pense qu'il faut faire attention parce que ça peut vraiment dénaturer le produit en soi. Par exemple, moi, sur les poissons, alors souvent, on va voir des poissons grillés, hein, je ne sais pas, dans des brasseries, des choses comme ça, le poisson grillé du jour ou un truc comme ça. Mais je trouve qu'au final, ça assèche presque trop le produit, ça le dénature complètement, que si tu pars sur une cuisson vraiment lente et douce. Et nous, c'est souvent ce qu'on fait dans notre façon de travailler, c'est qu'on va peut-être cuire, par exemple, un suprême de pintade. On va le cuire tout doucement. Donc, je ne dis pas en cuisson sous vide ou en basse température, parce qu'on n'utilise pas cette méthode de cuisson. Mais on va le cuire vraiment tout doucement. Et après, au dernier moment, là, on vient juste griller la peau, en fait. Parce que si tu viens griller ton suprême, la chair du suprême, tu as quelque chose d'hyper sec, tu n'as plus de jus, tu n'as plus rien qui se passe. Alors que si tu viens juste griller la peau, et au final, c'est le goût de la peau grillée qu'on aime. Ce n'est pas forcément le goût de la chair. Bah, là, je pense que c'est intéressant comme procédé. Après, nous, c'est notre façon de faire. Hein. Même sur les poissons, on va cuire le poisson tout doucement au four par exemple, on va mettre notre four à 80 degrés, on a le poisson qui est cuit et la peau elle est par contre elle toute molle, et là on va juste venir sur une poêle à fond la caisse, juste griller, saisir la peau, et c'est là où tu as cette jutosité, cette onctuosité du produit, et tu arrives quand même à avoir une peau grillée en fait.
Donc ce que tu racontes, Guillaume, c'est que finalement, le moment où on essaye de griller quelque chose, il faut qu'il soit un peu limité. C'est, du coup, soit on fait ça à la fin, une fois que le suprême a déjà, voilà, on a réussi à le cuire comme il fallait, sans la sécher. Soit, ça me fait aussi penser à quand on fait, par exemple, de la viande mijotée, on la fait d'abord revenir à feu vif, et ensuite, une fois que vraiment ce qu'il y a autour est légèrement caramélisé, seulement ensuite on va chercher à mettre un bouillon pour continuer à cuire la viande et du coup garder son côté tendre. Donc à chaque fois, il faut limiter un peu dans le temps, du coup réfléchir au moment qu'on accorde à la caramélisation.
En fait, il faut vraiment toucher le produit, l'écouter, entendre tous les bruits qui se passent autour, s'il y a un crépitement, s'il y a de la fumée. Faut vraiment être attentif, je pense, à ce qui se passe dans la casserole, sur un barbecue.
Comment on peut justement essayer d'être attentif à ne pas ni donc sous-cuire ni trop cuire une viande ou un légume ? Tu l'entends donc vachement au bruit, c'est ça ?
Faut avoir le bon matériel aussi. Ça sert à rien parfois d'avoir une poêle anti-adhésive qui va ralentir aussi cette caramélisation. La bonne chaleur, commencer avec un feu très fort, le diminuer à un moment, avoir la bonne quantité de matière grasse aussi, on va en mettre peu au début pour que ça caramélise, en rajouter au fur et à mesure, soit de la matière grasse ou un liquide, pour justement nourrir le produit et, à l'intérieur pour avoir un côté croustillant à l'extérieur, bien fondant à l'intérieur, et vraiment jouer, pas hésiter à toucher le produit, à le retourner et jouer avec tous ces éléments, l'arroser.
Oui, l'arroser, c'est vrai que c'est important ça aussi. Est-ce que dans tous les cas, il faut le mettre à saisir ces ingrédients seulement quand la poêle est chaude avec la matière grasse ? Est-ce que c'est un peu une règle ça qu'il faut démarrer à feu vif ?
Moi, je pense que oui.
Je pense aussi.
Et c'est marrant parce que sur d'autres expériences professionnelles, si on prend l'exemple, quand on fait un jus de viande, c'est un peu le savoir-faire ancestral. Tu as toujours les cuisiniers qui savent mieux faire le jus de viande que toi, que machin. Enfin, quand je parle par exemple quand tu es dans une brigade où tu as une dizaine de mecs avec qui tu travailles. Donc, tu en as qui vont démarrer sans matière grasse, tu en as qui vont démarrer à froid, tu en as qui vont démarrer à l'huile, d'autres qui vont mettre directement du beurre. Enfin, tu sais, ils ont tous un peu leur façon de faire. Et tu n'arrives pas forcément au même résultat. Le résultat n'est pas plus ou moins bien en fonction des gars. Après, c'est un peu toi qui choisis ta façon de faire le truc. Mais moi personnellement, en tout cas, j'aime bien démarrer. Donc, très peu de matière grasse, ça n'a rien on n'est pas sur une friture. très peu de matière grasse. Dès que ton huile commence, mais vraiment à peine à fumer, si tu utilises de l'huile, là, on dépose l'aliment sur la face que tu veux avoir en visuel en premier, en fait. Ce que tu vas mettre, si par exemple tu mets ta peau de poulet à griller en premier, c'est elle qui sera la plus jolie, en fait. Enfin, on n'arrête pas de parler du poulet, mais ça marche sur un légume. Et après, en fait, tu as vraiment tous les sens qui rentrent en jeu. En fait, t'entends si c'est en train d'exploser, si tes matières grasses sont en train de faire un crépitement pas possible, si au loin tu vois un peu de fumée qui se dégage. Enfin, moi, personnellement, j'ai l'ouïe qui rentre tout de suite en compte.
Ouais.
Après, bien sûr, le visuel, ou si tu vois que tu as une matière grasse qui est en train de brûler, qui est en train de prendre feu, ça, limite, c'est en train de... Ouais, ça fume bleu, comme on dit en cuisine. C'est que ça va pas. Et je pense qu'il faut démarrer fort. Après, au bout de quelques minutes, tu commences à baisser ton feu. Et en fait, tu vas, si on fait la méthode traditionnelle française, cuisson au beurre, là, tu ajoutes tes petites parcelles de beurre. Tu réduis le feu pour pas que ça crame, pour pas que ton beurre, il tranche. Enfin, pas qu'il tranche, mais qui noircissent et que t'amènes plein de choses pas très bonnes pour le corps. Et après, t'arroses tout doucement ta viande. T'as un beurre qui reste moussant. Et puis, logiquement, ça se passe plutôt bien.
Et ça après, va faire décoller les sucs aussi. C'est ce qu'on cherche aussi dans une caramélisation. C'est de récupérer tous les sucs qui accrochent au fond de la casserole. Et c'est là qu'on va venir déglacer avec un liquide. C'est ce qui va faire une base de sauce, de jus, et que ça soit. Ça, c'est valable sur de la viande, mais aussi sur les légumes. Nous, au resto, on fait pas mal de... on a toujours un plat végétarien, une entrée et un plat végétarien à la carte. Et on fait souvent des jus de légumes
On procède exactement comme sur un jus de viande. Donc, on caramélise nos morceaux de viande, on met une garniture aromatique, on déglace avec un bouillon ou un jus et puis on laisse réduire. Et sauf qu'en fait, tu peux faire exactement la même chose avec des parures de carottes, quelques échalotes, de l'ail. Tout exactement pareil, on caramélise, on ajoute des épices, on rajoute un mouillement. Et en fait, t'as une grâce à la caramélisation. Parce que tu as la caramélisation en fait qui se fait autour, enfin sur ton légume par exemple, mais en fait dans le fond de ton sautoir, de ta casserole, tu as tous les sucs en fait qui restent accrochés. Donc après il y a le travail du cuisinier où il faut que ces sucs ne crament pas. Donc là, c'est à toi de jouer avec ton feu. Mais en fait après dès que tu déglaces avec un liquide, donc un bouillon de légumes, par exemple, tout de suite, tu as quelque chose qui se passe. Tu récupères tous les sucs de cuisson, tous ces goûts toastés, tous ces goûts caramélisés de légumes rôtis, en fait. Et tu accentues ton jus fois 1000, quoi.
Avec Ingrid et Guillaume, on a aussi parlé du plaisir qu'il y a à décloisonner les techniques en cuisine. Par exemple, en appliquant à des légumes des cuissons souvent associées à la viande, genre saisir un champignon portobello comme on saisirait un steak haché, ou encore rôtir un chou-fleur au four comme on enfournerait un gigot. Pour comprendre à présent ce qui se joue exactement dans la cuisson de certains aliments pour que de nouveaux arômes se déploient, j'ai rencontré Arthur Lequen afin qu'il nous explique en quoi consiste la, ou plutôt les, réactions de Maillard.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains se demandaient pourquoi leur nourriture qui était dans des conserves devenait marron. Et on s'est aperçu que c'était dû aux réactions de Maillard. Quand on les conservait, en fait, elles prenaient une couleur marron avec le temps. Ça se conservait plusieurs années, mais au cours de ces années, les couleurs se modifiaient.
Donc, les aliments brunissaient.
Voilà, exactement. Ils cherchaient à comprendre pourquoi. Ils se sont aperçus que c'était dû aux réactions de Maillard. D'ailleurs, on ne dit pas la réaction de Maillard. Enfin, la réaction de Maillard, c'est une réaction entre deux molécules. Mais comme il y a énormément de molécules et des milliards de molécules, il faut dire les réactions de Maillard.
Aujourd'hui, comment on peut faire un lien entre ce qui se passait donc, dans ces boîtes de conserve pas chauffées et qui quand même étaient sujettes aux réactions de Maillard et la réaction de Maillard ou les réactions de Maillard tels qu'on les décrit à propos de la cuisson d'une viande, par exemple.
Alors, en fait, les réactions de Maillard, c'est une réaction entre des sucres et des acides aminés et qui se lient quand on les chauffe. Et ça crée des nouvelles molécules, mais des milliards de fois. Et elle crée des nouvelles molécules ensemble, mais elle crée aussi des nouvelles molécules séparément quand il y a du gras, par exemple, soit dans la viande, soit quand on rajoute de l'huile pour la cuisson. Et au cours de ces réactions, l'ensemble perd un peu d'eau, ça sèche et donne des composés bruns qui sont savoureux et avec des odeurs soutenues. Par exemple, c'est l'odeur du bon poulet rôti ou du pain un peu grillé qu'on trouve chez un boulanger.
Et donc ça explique en quoi la cuisson d'un aliment importe dans son goût quoi, à la fin.
Oui, parce que quand on cuit avec des réactions de Maillard, on fait dorer les viandes, il faut de l'eau, mais pas trop. Par exemple, si on prend un steak qu'on fait dorer à la poêle, il va développer des saveurs, des odeurs, il va changer de texture, il va devenir croustillant à l'extérieur. Mais si on le fait cuire dans de l'eau, il va cuire aussi, mais on n'aura pas du tout le même résultat. Il va perdre beaucoup de goût par osmose dans l'eau, il va moins brunir, il n'y aura pas de réaction de Maillard, zéro réaction de Maillard, même si on est à 100 degrés, parce qu'il n'y a pas de réaction de Maillard dans de l'eau. Ça ne se crée pas comme ça. Et puis, la texture sera différente.
Donc, les réactions de Maillard interviennent à un point de température très précis?
Non. Alors ça, c'est une croyance. On pense que les réactions de Maillard se produisent à des températures élevées. Ce n'est pas vrai du tout. Les jambons secs changent de couleur en partie grâce aux réactions de Maillard, donc à température ambiante. À 20 degrés, il y a déjà des réactions de Maillard. Et les problèmes, par exemple, qu'ont les diabétiques qui ont souvent des cataractes, elles sont dues aux réactions de Maillard. Donc, ça se produit à toute température. Simplement, plus on augmente la température, plus le nombre de réactions augmente. Et donc, on se retrouve avec des milliards de réactions à 180 degrés et peu de réactions, ou des réactions très lentes à température ambiante. C'est pour ça que le jambon sec prend sa couleur en plusieurs mois. Voilà.
D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y avait déjà des réactions de Maillard dans les conserves des Américains.
Absolument.
Et aujourd'hui, dans les livres de recettes, quand on entend parler de réactions de Maillard, c'est surtout pour parler du point de saisie d'une viande, par exemple.
Oui, c'est ça. Alors, on mélange un peu tout. Les réactions de Maillard sont très présentes dès qu'on est à forte température. Faut pas confondre non plus la réaction de Maillard et la caramélisation. Il y a de la caramélisation quand on fait des réactions de Maillard, mais ça représente très peu des réactions du brunissement d'une viande.
Comment on peut expliquer le goût si agréable d'un aliment quand on le saisit ? Par exemple, un champignon dans du beurre ou justement une viande qui semble caramélisée, alors que le mot caramélisé suppose la présence de sucre, tandis que là, on parle vraiment juste du brunissement.
Il y a du sucre, mais très peu. Donc, il y a de la caramélisation, mais c'est infime. Ça représente très peu des réactions, ça représente très peu à la modification du goût.
Donc, le sucre qu'il y a naturellement
dans les viandes, dans les aliments, il y en a.
D'accord. Donc, même sans ajout de sucre, on n'a pas tort de parler de caramélisation.
Oui, mais c'est quand une viande... c'est difficile de dire qu'une viande caramélise. Enfin, elle caramélise, mais infiniment peu. Donc, c'est pas vraiment... C'est une caramélisation, mais c'est comme si ça représente que moins de 1% de la modification de la texture de la viande et du goût de la viande. Donc, c'est pratiquement quantité négligeable.
D'accord. Et alors, pourquoi c'est si bon, du coup, un champignon poêlé dans du beurre, plus qu'un champignon nature?
Alors, il y a différentes choses. Alors, dans du beurre, d'abord, le beurre est un corps gras et donc on va faire dorer le champignon un petit peu, donc on va développer des réactions de Maillard. Donc ce gras, quand on va l'avoir dans la bouche, il va un petit peu enrober les papilles gustatives, donc on va moins sentir le goût d'une façon nette, mais plus longtemps, le temps que ces papilles gustatives se nettoient et perçoivent les molécules de goût. Et ensuite, le gras est un capteur de saveur énorme et donc on va développer du goût. Deuxième chose, c'est que on va avoir des molécules qui sont volatiles, qui vont remonter dans le nez et qui participent au goût. Donc on a beaucoup plus de goût une fois que c'est cuit comme ça. Ensuite, il y a très certainement une autre raison qui tient de l'inconscient et qu'on peut relier au feu, aux hommes préhistoriques, quand on a commencé à cuire avec du feu, etc. Le feu fait partie d'un bien-être, de chaleur, de, de partage, on aime faire des barbecues, on aime faire des feux de bois, enfin tout ça, ça fait partie d'un inconscient. Et très certainement que la cuisson à forte température comme ça se relie à cette chaleur du feu et du partage.
Mais même si j'essaye par exemple d'oublier cet imaginaire du barbecue, cet imaginaire voilà, festif et chaleureux, et que je vais manger par exemple un champignon poêlé dans ma poêle anti-adhésive, donc pour le coup sans beurre, que vraiment juste le champignon va être un peu doré, là j'aurais quand même l'impression qu'il va avoir meilleur goût. Est-ce que c'est qu'une vue de l'esprit?
Oui, d'abord il va peu dorer. Dans une poêle anti-adhésive, il va peu dorer, parce que ce ne sont pas des poêles qui transmettent bien la chaleur. Donc c'est des poêles qu'on utilise pratiquement uniquement pour les œufs au plat et pour des cuissons douces, pour des filets de poisson. Il vaut mieux utiliser une poêle en fer pour faire dorer. Mais ça peut adhérer. Mais effectivement, vous développez quand même des réactions de Maillard, même s'il n'y a pas de gras.
Est-ce que tous les ingrédients pourraient être l'objet de réactions de Maillard?
Non, parce que ils n'ont pas tous des sucres et des acides aminés en même quantité. Par exemple, si vous faites cuire des haricots verts frais, même avec un peu d'huile, vous n'allez pratiquement pas développer de réaction de Maillard. Voilà. Donc il faut de l'eau, pas trop, entre 60 et 70%. Voilà. Donc les réactions de Maillard, on les retrouve principalement sur de la viande, des poissons et certains légumes qu'on fait sauter.
D'accord, ok. Donc beaucoup de protéines et puis certains légumes.
Voilà, exactement.
Alors justement, en parlant de protéines animales et de viande, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment les différences qu'il y a entre les cuissons bleues, saignantes, à point, cuits et bien cuits, qu'on a communément en tête?
Alors, déjà, il faut savoir ce qui se passe dans les viandes. C'est-à-dire qu'à partir de 40 degrés, les protéines commencent un peu à se dénaturer. À 50 degrés, les fibres commencent à se contracter, donc à expulser un peu de jus. À 55 degrés, le collagène commence à se dissoudre, mais il lui faut beaucoup de temps pour se dissoudre, comme dans la cuisson d'un pot-au-feu ou d'un bœuf bourguignon, ça demande plusieurs heures. À 65 degrés, de nouvelles protéines commencent à coaguler et à durcir, donc on commence à avoir une viande qui durcit. Et à partir de 80 degrés, les parois cellulaires sont rompues et la viande devient grise. 80 degrés, c'est ce qu'on obtient sur l'extérieur de la viande. C'est pour ça qu'à l'extérieur d'un steak ou d'un rôti, on a toujours une petite partie qui grise.
D'accord.
Alors, on a des différences de température entre que la viande soit, ça soit du bœuf, du veau, du cochon ou de l'agneau. Alors, il y a différentes raisons. D'abord, parce que le cochon peut avoir des bactéries à l'intérieur des morceaux de viande, des petits vers. Le bœuf, non. Ça reste à la surface. Et les volailles, par exemple, ont des bactéries en général sur les pattes parce qu'elles marchent dans les excréments et donc elles ont des écailles qui les protègent. Mais quand elles sont transportées, ces pattes peuvent être mises en contact avec d'autres parties de volailles. Donc on a des bactéries sur l'extérieur et donc il faut chauffer fort l'extérieur pour tuer ces bactéries.
D'accord, c'est pour ça qu'il est assez peu recommandé de manger de la volaille rosée ou trop rosée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour le bœuf, par exemple, la température de bleu, c'est 45 degrés. Mais du veau, du cochon et de la volaille, c'est une trop faible température. Donc, on ne les sert jamais à cette température-là. Saignant, c'est 50 degrés pour du bœuf, 55 pour du veau. Le cochon, on peut le servir à 60, mais il faut le cuire très longtemps à 60 degrés pour tuer les bactéries. C'est-à-dire que pour tuer les bactéries, vous pouvez soit être à une très forte température et elles sont tuées en un quart de seconde, soit à une température plus faible, mais il faut qu'elle reste, faut que la viande reste à cette température longtemps. On a des recommandations sanitaires, par exemple, de cuire de servir du poulet cuit à au moins 72 ou 73 degrés, mais à 65 degrés, il est très bon si vous l'avez cuit à basse température. Donc, vous faites une cuisson à basse température pendant 3 heures et vous restez aux alentours de 60-65 degrés d'échelle et ça suffit amplement. Vous éliminez toutes les bactéries parce que le temps de cuisson est assez long.
Ah oui, donc ça, c'est une astuce pour garder le côté savoureux de la viande tout en respectant du coup les normes
sanitaires.
Oui,
parce que par exemple, sur la cuisson du poulet, on dit toujours de le mettre à 180 degrés ou 200 degrés. En fait, c'est extrêmement fort et c'est beaucoup trop. La chaleur est beaucoup trop vive, par exemple, pour cuire les blancs. Le poulet rôti, c'est compliqué parce que les blancs demandent peu de temps de cuisson à une température assez basse, alors que les cuisses ont besoin d'un temps de cuisson beaucoup plus long. Et le fait de mettre le poulet rôti, de faire rôtir le poulet avec les blancs au-dessus est une hérésie parce que les blancs sont soumis directement à la chaleur rayonnante du haut du four, alors que les cuisses, elles, sont de profil et cuisent beaucoup moins vite. Ce qu'il faut faire, c'est retourner le poulet, avoir les blancs en dessous, et les cuisses et le dos au-dessus, et remonter le poulet le plus haut possible dans le plat, mais à 2 cm du haut du four, pas plus. Et de faire cuire à une température beaucoup plus basse. Moi, je le fais cuire 3 heures, entre 130 et 140 degrés. Et ensuite, au bout de 3 heures, il est cuit, je le sors, je monte mon four au maximum, à 300 degrés, et je le remets dedans, en le tournant toutes les 3 minutes, pour faire dorer à ce moment-là.
Mais ça, c'est un excellent conseil, parce que c'est vrai que machinalement, on a tendance à mettre le poulet toujours dans le même sens. C'est l'image d'Épinal qu'on a, quoi, vraiment du poulet qui doit être les pattes posées au fond du plat. Et on ne compte pas le nombre de fois où le blanc du poulet va être trop sec.
Oui, ben, c'est le principe. Par exemple, quand vous achetez un poulet rôti chez le boucher, les blancs sont immangeables et les cuisses sont bonnes. C'est parce qu'on a besoin de temps de cuisson différent. Il y a la tenue au collagène est différente. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes. Les chairs ne sont pas du tout construites de la même façon. Donc, il vaut mieux le cuire à une température plus basse, longtemps, et à l'envers. Ça, c'est important.
Et c'est pour ça aussi que le gigot d'agneau de 7 heures, c'est particulièrement bon aussi. C'est
mais
que
oui,
le cuire autour de 100-120 degrés pendant 7 heures.
Même pas. C'est-à-dire que c'est 100-120 degrés à l'extérieur, mais la viande, elle a une température beaucoup plus basse, et elle cuit longtemps, et le collagène se dissout, et on a une viande extrêmement tendre. C'est pour ça qu'on le sert à la cuillère.
Toi, ton type de cuisson préféré, c'est quoi alors, entre bleu, saignant, à point, cuit?
Ça dépend. Moi, j'aime plutôt. Ça dépend en fait du gras des viandes. C'est-à-dire que une viande très grasse, on peut la manger à point. Elle se mange plutôt à point. Une viande moins grasse se mangera plutôt bleue. En fait, le gras va apporter de la juteosité, du goût. Et par exemple, le véritable bœuf wagyu, en fait, se sert au Japon, en tranches extrêmement fines qu'on fait dorer, ça fait des tranches de 1 mm d'épaisseur et qu'on fait dorer sur un petit barbecue ou dans un bouillon, mais elles sont à point.
Voilà. Oui. Et est-ce que tu as des conseils en général donc pour bien cuire un aliment, vraiment le sublimer, mais sans l'assécher, alors du poulet?
Je ne sais pas pourquoi on a des types de cuissons maintenant qui sont des cuisson très. Enfin, ça fait longtemps, on cuit les choses beaucoup trop fortes, enfin, beaucoup à des températures de 180, 200, 220 degrés. Ça va pour les morceaux très fins, mais dès qu'on a des morceaux plus épais, comme un rôti, un gigot, on a intérêt à le cuire à une température plus basse et le faire dorer en fin de cuisson. Il faut imaginer que la viande est un peu comme un isolant, c'est-à-dire que le temps que la chaleur pénètre jusqu'au centre de la viande, il faut beaucoup de temps. Si vous êtes à une température très forte, vous allez surcuire l'extérieur avant que la chaleur soit pénétrée au centre. Si vous faites cuire à une température inférieure, par exemple 140 degrés, vous allez laisser la chaleur va pénétrer doucement à l'intérieur, mais sans surcuire l'extérieur. Et à la fin, vous arrosez et vous montez la température du four et vous faites dorer la viande pour créer plus de réactions de Maillard.
D'accord. Et alors, est-ce que peut-être la raison pour laquelle on a tendance à cuire à très grande température les choses, c'est parce qu'on a l'impression que ça va aller plus vite comme ça, de saisir?
Alors, ça ne va pas plus vite, mais c'est parce qu'en fait, on ne réfléchit pas en cuisine. C'est un truc assez étonnant. On apprend des choses aux étudiants ou les chefs transmettent des choses qu'ils ont apprises. Les chefs étoilés cuisinent à l'instinct, mais ils n'ont pas les connaissances scientifiques. Donc, quelquefois, ils donnent des explications qui ne tiennent pas la route. Enfin, quelquefois, c'est très souvent. Pour citer un exemple, on peut parler du pot-au-feu. Le pot-au-feu, c'est une viande qu'on met. On met de la viande, des légumes dans de l'eau, on fait cuire, à la fin, la viande est cuite. Et l'eau est transformée en bouillon qui a un très bon goût de viande. Le seul problème, c'est que ce goût de viande que l'eau a gagné, c'est la viande qu'il a perdue.
Ouais.
Donc, le principe du pot-au-feu, c'est d'enlever du goût de la viande pour en donner à de l'eau. Vous pouvez couper vos légumes en biseaux, en ronds, ce que vous voulez, en mettre plus ou moins, la viande prendra toujours du goût dans l'eau. À ce moment-là, c'est intéressant de comprendre pourquoi on fait comme ça. Et en fait, on faisait comme ça avant, parce que c'était, le pot-au-feu, c'est un bouillon de légumes, et si par malchance, la vache qui nous donnait du lait venait de mourir, on mettait un morceau de ses muscles dans le pot-au-feu pour donner du goût, et pour qu'elle y perde du goût. Et cette viande, n'étant pas une race à viande, on ne la mangeait pas, elle était trop dure, on pouvait à peine la mâchouiller, donc on faisait en sorte qu'elle perde son goût dans ce bouillon.
D'accord.
Et on la jetait, cette viande. Et
c'était justifié, alors.
Voilà, c'était justifié. Mais on cuit toujours le pot-au-feu, par exemple, de la même façon, sans avoir réfléchi.
Aujourd'hui, c'est une hérésie.
Et une hérésie, en fait, il faut préparer un bouillon un peu en amont et on fait cuire sa viande dans le bouillon. Et de cette façon-là, la viande perd à peu près 30% de moins en poids.
Oui.
C'est-à-dire que si vous prenez 500 grammes de viande à pot-au-feu, après cuisson, il vous en reste 200-250 grammes. Alors que si vous la faites cuire dans un bouillon, il vous reste 350-400 grammes. La différence est énorme.
Et bah, du coup, ça me fait penser à la façon qu'a ma mère de cuisiner, par exemple, les soupes de vermicelle au poulet. Mmh. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle plonge le poulet entier dans l'eau et que du coup, bah, ce poulet va cuire comme ça. Mmh. Et en même temps, parfumer aussi le bouillon.
Ouais.
Elle va ensuite le ressortir une fois que le poulet est vraiment cuit. Enlever la chair et après seulement remettre donc les os.
Oui, alors dans les os, il y a pas beaucoup de goût parce que les os sont composés de calcaire et que on trouve encore des squelettes d'il y a 1000 ans donc, qui sont pas dissous. Donc donc il y a pas grand chose dans les os. Il y a des saveurs dans le cartilage. Là, il y en a beaucoup et il y a du collagène aussi qui épaissit, qui transforme le bouillon un peu en gelée. Mais l'intérêt, c'est de faire dorer les os avant de les mettre, parce que vous développez sur ces os des réactions de Maillard qui vont par osmose glisser dans le bouillon.
Ah, d'accord. Donc ça, c'est un truc qui peut être intéressant.
C'est-à-dire quand
on
prépare des fonds de bœuf ou des bouillons de bœuf, on fait dorer les os. Et puis ensuite, on les met dans le liquide et on fait infuser. C'est-à-dire que la préparation d'un bouillon ou d'un fond, en fait, c'est une infusion de viande. Et ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est ce mot-là, infusion. On ne cuit pas. Donc, il faut chauffer à une température assez faible, en fait, aux alentours de 70 degrés et très longtemps. Surtout pas de frémissement, surtout pas de bouillonnement. Là, on cuit. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'on met dans l'eau perdre le maximum de saveur. Imaginez, par exemple, un thé que vous faites, que vous mettez dans un sachet de thé ou du thé que vous mettez dans une casserole et que vous faites bouillir pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est dégueulasse. Mmh. Mais si vous mettez dans une eau à une température un peu plus faible, je crois aux alentours de 80 degrés, et que vous laissez infuser, vous allez capter la substantifique moelle des feuilles de thé et ça ne va pas devenir astringent, ça va être délicieux.
Et est-ce qu'on a raison de penser que trop cuire une viande, c'est ne pas forcément lui faire honneur parce que ça va un peu la sécher, lui enlever du goût? Est-ce que c'est vrai du coup qu'une viande saignante bleue va être quand même meilleure à déguster qu'une viande trop cuite?
Oui, elle est meilleure. Alors il y a différentes raisons. D'abord, elle a effectivement un goût plus neutre, plus naturel et un plus de goût. Plus on cuit, plus la viande s'assèche et donc plus une partie de ses composés s'évapore. Mais il reste quand même de l'eau et de la juteosité dans la viande, même si elle est bien cuite. Simplement, les fibres ont été tellement contractées et sont durcies que même en mâchant, on ne perçoit plus la juteosité de la viande. Donc, on ne peut pas dire qu'entre une viande bien cuite et une viande saignante, il y a une différence de poids de 50%. Ce n'est pas du tout le cas.
Oui.
Mais on ne perçoit plus la juteosité de la viande. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est sèche et dure comme une semelle. Il y a de l'eau dedans, mais on ne peut plus l'apercevoir.
Alors, c'est intéressant que tu emploies le mot jutosité. Justement, moi, ça m'arrive, quand je commande une pièce de viande rouge, de la demander saignante plus que bleue, parce que, bon, parfois, j'aime la viande un peu bleue, mais quand ça l'est un peu trop, j'ai l'impression justement de ne plus sentir cette jutosité.
D'abord, la cuisson bleue, c'est une cuisson techniquement très difficile à faire, parce que il faut que ce soit bleu et chaud. Et plus la viande est épaisse, plus c'est compliqué.
Oui, donc une fois sur deux au resto, c'est un peu raté.
Ouais, c'est très compliqué à faire. En fait, il faut déjà remettre la viande à température. Parce que un bleu pour du bœuf, on est à 45 degrés. Et il faut que votre viande soit à 20 degrés déjà avant pour n'avoir que 25 degrés à gagner et que la cuisson soit rapide pour éviter d'avoir une surcuisson de l'extérieur. Bon, il y a plusieurs systèmes qui marchent. En général, c'est des cuissons qui sont lentes, très lentes, à température très basse, pour que la température ait le temps de monter à l'intérieur sans surcuire l'extérieur.
Et alors, du coup, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique si je trouve la viande saignante quand même plus savoureuse qu'en cuisson bleue?
Oui, parce qu'il s'est développé plus de choses à l'intérieur de la viande qui a chauffé, donc il y a des modifications aromatique et il y a plus de saveur. Alors ça dépend de la viande. C'est-à-dire, si elle est plus grasse, vous avez intérêt à manger plus saignante ou à point que bleue, parce que le gras, quand il n'est pas assez chauffé, pas assez cuit, est quelque chose qui peut être dur et sans goût, et on n'a pas développé son goût. Mmh. C'est vraiment dommage.
Après l'enregistrement, on a continué à discuter avec Arthur de l'importance d'inclure un peu de compréhension scientifique dans la cuisine afin d'obtenir des résultats plus savoureux. Mais selon Arthur, ce n'est pas toujours simple de convaincre les chefs accrochés à l'argument d'autorité que sont les livres de cuisine traditionnelle française. C'est qu'il y a dans notre culture culinaire française beaucoup de romantisme et de classicisme, et parfois une fierté très harnachée à la logique. Après tout, on fait comme ça depuis des générations. À ce titre, le travail d'Arthur, celui de la vulgarisation scientifique appliquée à l'alimentation, est précieux. Il permet de donner des clés pour réellement comprendre l'intérêt de faire ceci ou cela en cuisine. Merci à Ingrid, Guillaume et Arthur de nous avoir donné de leur temps pour parler de réactions de maillard, de caramélisation et d'aliments si délicieusement dorés. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée par Marine Rowe, mixée par Charles de Cilia, programmée par Cassandra de Carvalho et coordonnée par Laura Cuissard avec l'aide de Clara Maté. À mercredi prochain et avant ça, à lundi pour un petit épisode Bouffon de la débrouille, notre série spéciale confinement.